Puisqu'on ne peut sortir du manège qu'avec des moyens de tangente, je commencerai par évoquer une ligne sinueuse, un peu fuyante, un serpentement, la serpeggiatura, que Léonard de Vinci intimait à la peinture de révéler par-delà le contour des corps. On peut suivre le destin de cette ligne serpentine depuis que, dans l'œil et l'esprit, Merleau-Ponty en a retracé le cheminement, de la restitution par le dessin d'une ligne flexueuse des choses, qui est pour le philosophe Ravesson comme leur axe générateur, au commentaire de Bergson, où cette ondulation constitue le nerf d'une nouvelle connaissance du mouvement. Je cite « connaissance de l'intérieur, intuition, sympathie intellectuelle, par où on se place dans le mouvement lui-même se faisant ». Merleau-Ponty, lui, va plus loin. Il voit dans ce trait inaugural de Vinci une constante de l'histoire occidentale de la peinture, passant par Cézanne et Giacometti, une puissance de contestation travaillant en profondeur la ligne prosaïque, le dessin positif des choses, de manière à faire apparaître de ces choses non pas un en soi illusoire, mais toujours davantage le tremblement même de l'apparition. Ni le contour de la pomme, ni la limite du champ ou de la prairie n'est ici ou là, écrit Merleau-Ponty. Ils sont toujours en deçà ou au-delà du point où l'on regarde. Que le vibrato de la ligne nous invite à une saisie du dedans, du cœur même de la formation des formes, signifie que la vision ne relève plus d'un calque achevé du monde, mais d'une genèse des phénomènes. Georges Didier Huberman arrivait il y a peu à une conclusion similaire devant les études et les blancs de Simon Antaille. Je le cite, « Il ne s'agit plus d'imiter la natura naturata, en s'épuisant à peindre des bouquets dans leur vase, mais de mettre au travail quelque chose comme une natura naturans, une vie inflorescente de la peinture elle-même. » Alors je voudrais voir une nouvelle extension de cette ligne, ligne obstinée donc, se rejouant sans cesse, s'essayant, se hasardant, lézard cherchant furtivement sa route, dans la troisième des leçons américaines d'Italo Calvino, où l'auteur entreprend de rapprocher la méthode de Léonard et celle de Francis Ponge. Écoutons donc Calvino. Les états successifs de l'idée traitée, que Francis Ponge finit par publier l'un derrière l'autre, parce que l'œuvre véritable consiste moins dans sa forme définitive que dans la série d'approximations permettant de l'atteindre, montre bien, chez Léonard écrivain, quelle force il engageait dans l'écriture en tant qu'instrument de connaissance, et combien il préférait, pour tous ses livres en projet, le procès de la recherche à l'achèvement d'un texte à publier. Et Calvino d'expliquer comment l'auteur des carnets faisait progresser un texte sur le feu, par empilement régulier d'indécision, par ajout de combustible verbal. Ainsi, l'effet d'Embrouillamini, produit, selon Ponge, dans l'étoile d'un autre peintre, contemporain celui-là, Eugène de Kermadec, et à travers lequel l'auteur de L'œillet, du bois de pin, du mimosa, reconnaissait sa propre poétique, était-il déjà à l'œuvre dans les récits, dans les écrits, pardon, de Léonard de Vinci? Merleau-Ponty aurait donc tout aussi bien pu prendre pour exemple une figue ou un pré. Notons cependant que d'une méthode à l'autre, du serpent au mimosa, la ligne originelle a quelque peu changé d'allure. Elle n'a certes pas cessé de sinuer, mais elle emprunte pour se faire moins au reptile qu'à la branche. Oh, bien sûr, il lui arrive parfois de faire illusion à la manière du figuier qui réunit, je cite, « l'arbre et le serpent », mais dans le fond, ce n'est plus une ligne vertébrée. La sortie rageuse du manège a sans doute lieu ici, dans cette drôle de bifurcation, dans cette quasi-élection des faunes et flores du végétal comme modèle de croissance et comme modèle scriptural, au regard de quoi il est très tentant de parler avec Philippe Bonnefils du végétalisme de Ponge, à condition néanmoins de faire la part des modèles alternatifs, fluides ou minéraux, qui se sont disputés la préséance dans les années 46-47, ainsi que du pré et de sa fabrique, texte syncrétique s'il en est, puisqu'il réunit sous autorité solaire les trois éléments. En somme, Ponge n'a cessé de rompre avec le règne dit supérieur. Mais la reprise, entre 1950 et 54, dans l'opinion changée quant aux fleurs, de l'idée d'une primauté de la plante sur l'animal, énoncée dans Flaune et Flore, suggère assez que s'il est pour lui une poésie plastique, c'est préférablement en termes de progression végétale, c'est-à-dire essentiellement ligneuse, qu'elle semble devoir se manifester. Pour se corriger, il faut ajouter. Les animaux, eux, reviennent en arrière, effacent. Tout cela est connu. Mais il faut encore préciser. Contrairement à l'animal, dont Ponge a bien compris que la logique de l'évolution l'entraînait du côté de la sphère, d'un volume clos sur lui-même, la plante est tout en axe d'expansion. Les botanistes précisent encore, et en surface. Quel est en effet le propre de l'arbre ? Multiplier les aires de contact et de captation jusqu'à l'extravagance, 130 hectares pour un spécimen de 40 mètres, y compris les racines, bien entendu. C'est sa manière à lui de compenser l'immobilité dont s'est affranchi l'animal. Ponge avance sa manière d'avoir des idées, ou encore de réaliser indéfiniment sa forme. Bien avant les textes ouverts de la rage de l'expression, bien avant l'opinion, Faune et Flore a donc quelque chose de programmatique. Si l'on ne peut sortir de l'arbre par des moyens d'arbre, il est au moins possible de sortir de l'homme par des moyens de lilas, en accumulant les feuillets, les corollaires et les notules étymologiques, non tant pour aboutir au volume, que pour déplier l'étendue, la redéployer plus loin selon des surfaces adéquates, un pré ou une table, pour l'exalter. Mais ce serait trop simple. Lorsqu'en 1954, Ponge entreprend de reconcevoir l'axe vertical de la fleur en se plaçant à ras de terre, là où se produit la poussée dans les deux sens, il ne fait pas seulement que répondre à l'impératif rimbaldien d'une botanique désembourbée des poncifs, il fait même bien davantage qu'emboîter le pas à l'anti-idéalisme radical du langage des fleurs de Georges Bataille. Comme l'a rappelé Nathalie Barberger, il prend acte de la différence capitale de la plante, pas de tête, et se dit prête à l'incarner. Quitter ma tête, descendre au nœud de l'être, situé, enfoui sous l'ombre, dans l'ombre, sous quelques centimètres de terreau. Une telle embardée hors du propre animal, chez quelqu'un qui affirme par ailleurs que rien que d'humain ne peut sortir de nous, doit retenir notre attention. Elle est le signe non d'une tentation régressive, d'une involution à un stade végétatif du vivant, mais d'un désir raisonné de faire corps avec les moyens de l'autre corps. Je voudrais insister sur la hardiesse d'une telle expérience frontale de l'altérité, d'une forme aussi inattendue de l'hétérogène, pour reprendre un autre mot de Bataille. Elle s'inscrit, bien sûr, contre tout tropisme cartésien de maîtrise, réduisant son objet à un prétexte. C'est le platane de Valéry, déjà traité par Bernard Weck, mais aussi, plus généralement, à rebours d'une histoire, d'une longue histoire intellectuelle, où la raison, dans le même temps qu'elle subissait la puissance d'attraction du schème végétal, écartait la plante comme objet spéculatif, jusqu'à la constituer en spectre, en impensé. Impensé d'inquiétude, écrit Thierry Marin dans un livre qui s'appelle « Le principe de floraison », et qui illustre d'une façon peut-être indépassable la plante de Hegel, à la fois refoulée et structurante, organisme ontologiquement inférieur et modèle dialectique. Chez Ponge, en revanche, la confrontation est résolument spéculaire, tout en flux d'énergie, et comme il se plaît à le dire, en acte. C'est un devenir au sens deleuzien du terme, un bloc de devenir, où les deux pôles sont symétriquement engagés. Pour autant que le jeu écrivant tend vers l'acéphalie de la plante, « Je peux faire une nouvelle figue », assure Ponge à Jean Rista, probablement alléché, la plante, elle, tend à devenir texte. Venons-en donc aux moyens. Les botanistes se sont longtemps intéressés aux structures jusqu'à vouloir mettre en forme dans leurs ouvrages de véritables calligrammes botaniques, comme le rappelle Michel Foucault à propos de Linné. Aujourd'hui, on recense 22 types d'architecture végétale, mais ce qui retient désormais les biologistes de la plante, c'est sa manière de croître. Pas la statique, donc, mais la dynamique. Roelof Oldermann, par exemple, définit l'architecture comme l'ensemble des formes structurales que l'on peut observer à un moment donné, chez une plante, dans une plante, et surtout le modèle de croissance comme la série d'architectures se succédant chez cette même plante au cours du temps. Ce modèle a un nom, réitération. Rien à voir avec le drageonnement, qui est un mode défensif de l'être végétal. Couper les tiges d'un fraisier, il repousse les agresseurs, on dit alors qu'il rejette. Non, la réitération, reprend Francis Allais, un autre botaniste, c'est la démonstration d'une force tout à fait pacifique, presque paradisiaque, par laquelle, je cite, « une nouvelle copie de l'unité architecturale se développe sur une unité antérieure ». Les plantes, en effet, ne font pas que se reproduire comme les bêtes au moyen d'organes sexuels. Proprement, elles végètent. Elles projettent partout leur réitéra. Voici pour preuve ce qu'on lit dans « La métamorphose des plantes » de Goethe, à qui l'on doit d'ailleurs d'avoir redonné à ce verbe « végéter » toute la vigueur qu'un mépris quasi général du légume avait fini par lui dénier. La plante, en s'allongeant de nœud en nœud, et en poussant une feuille après l'autre, en un mot en végétant, exerce une sorte de reproduction qui ne diffère de la reproduction florale et séminale qu'en ce que cette dernière est simultanée, tandis que la première est successive et se manifeste par une série de développements isolés. Première conséquence, qui ne manquera pas de résonner avec bon nombre de commentaires sur le mouvement génésique du poème pongien. La vie de la plante se confond avec sa genèse, et celle-ci, potentiellement, du moins, est illimitée dans le temps. D'autre part, le modèle végétal ne se contente pas de cumuler les paradoxes. Entre autres, une plante change de forme en se répétant. Mais par la puissance même de cette itérabilité, il vient déboussoler le très hégémonique concept d'individu sous les espèces d'organismes éclatés, de structures fractales et polyarchiques, où chaque réitéra est un membre ajouté à ce que l'entomologiste Henri Fabre appelait une association d'individus. Et il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de noter, même entre parenthèses, que cela s'opère très tôt, dès le XVIIIe siècle, concomitamment donc à l'émergence de l'individualité moderne, de Réaumur à Goethe, justement. L'observation de Ponge, pas de tête, doit donc s'entendre moins littéralement qu'au sens d'une poussée polycéphale, matérialisée dans les textes par la prolifération des redites, qui sont autant d'antennes ou de têtes chercheuses lancées au fil de la plume, au hasard, selon les lois de l'évolution, donc, et va comme je te pousse vers les petits bonheurs de la trouvaille dont la reformulation de l'unité organique du poème n'est évidemment pas la moins décisive. Écriture saxifrage, pourrait-on dire. Le monument intouchable et insécable, pétrifié dans l'équilibre d'une cohésion définitive, se voit peu à peu décelé, renversé, au prix d'une nouvelle espèce d'expression, vivace, expansive, car indéfiniment divisible, une sorte de dividu textuel. Alors reste pour nous à savoir si le terme de réitération et le verrouillage mécaniste qu'il suppose est adaptable à la poétique imminemment absorbante de Ponge. N'est-ce pas précisément un effet de psalmodie et de réitération que l'auteur de méthode craignait d'obtenir en suivant le modèle cristallin, en se réglant sur une simple juxtaposition des mêmes atomes? Or, il y a loin du vivant au minéral, même régulier, et si le végétal échappe à la stérilité, c'est que la matière y est traversée, bouleversée, et constamment, par l'événement et l'indétermination, travaillée par un principe vital et donc aléatoire de surgissement. Élan de l'herbe et du pain, élan de désir, élan du désir du figuier, torsion à l'infini de l'asparagus, ou bien encore, dans l'opinion, innervation, articulation et vascularisation de l'espace. Principe dont la formule tient tout entière dans cet imprévisible fruit auquel l'écriture, après la nature, doit de donner toutes les chances d'apparaître. Le terme de réitération pourrait même se révéler d'autant plus approprié qu'à vrai dire, la reproduction d'une unité n'est en rien réductible à une stricte réplication. Elle s'assortit au contraire d'une formidable plasticité génétique, inconnue du monde animal. Ainsi, la progression du méristème, qu'on pourrait définir comme l'avant-garde de la plante, sa pointe ou sa fourche, tenseur et vecteur du pullulement cellulaire, a autant à voir avec l'élongation qu'avec la mutation. Chaque avancée, ou presque, du soma végétal engendre en effet une variation du génome d'origine, 45 au total pour une population de 13 figuiers étrangleurs. Exubérante mutabilité, qui est en fait le coup de grâce asséné en biologie au dogme d'un individu génétiquement stable et homogène. Homogénéité dans l'espace, écrit Francis Allais, stabilité dans le temps. Ponge aurait-il eu vent de cette théorie de la labilité du génome végétal, énoncée dans les années 1940, et depuis abondamment documentée, encore que discrètement pour cause d'inertie zoocentrique? Rien n'est moins sûr, mais la question de la répétitivité, enfer de la flore dans le parti pris, mérite d'être reconsidérée à cette aune nouvelle. Il n'est pas complètement insignifiant, en effet, dans un contexte scientifique marqué par les aspirations dominatrices d'un modèle déterministe, le programme génétique, par exemple, rejetons de la très mécaniste théorie de la préformation que défendait déjà Hegel contre Goethe et son idée de métamorphose. Pas insignifiant, donc, qu'un poète n'ait eu de cesse d'arracher la poésie à la fatalité de sa forme, et plus encore du genre, par phagocytation du poème par le proème, par le journal métatechnique, jusqu'à lui frayer des issues génériques adventives, scénette du savon, abcès poétique du garnet du bois de pin, jusqu'à produire, en appendice du même carnet, des extraits d'une correspondance exogène, manière ironique d'indiquer que le texte, même achevé, continue de fournir du bois mort, tout en confirmant sa capacité de régénération. Comme dans la plante, donc, la plasticité textuelle confine à ce que certains botanistes désignent depuis une trentaine d'années sous le nom de fluidité. Nous savons ainsi, depuis Michael Riffater, que les séries tautologiques de variantes ne fonctionnent qu'en vertu d'une très grande mobilité verbale. Dérivation, imposition, surimposition, métamorphose, transfert, transformation, transcodage, autant de mots qui ont résonné ici même à l'époque. Nous savons également que la pratique autotextuelle, passée au crible de l'approche microgénétique de Jean-Marie Glaise et de Bernard Weck, ne peut être limitée au schéma concaténatoire d'une intertextualité restreinte, mais doit être rapportée à des phénomènes complexes de circulation et d'interaction, où textes et prototextes jouent l'un pour l'autre, indifféremment, le rôle d'un substrat nourricier. Cette fluidité génésique n'est d'ailleurs pas moins agissante au plan de l'élaboration des recueils, comme l'ont montré les mêmes auteurs. Elle reflète alors une liberté élémentaire, expérimentale, de ce qu'il vaut mieux appeler agencement que composition, et par là même une très singulière faculté d'adaptation énonciative. « J'essaye tout », avoue Ponge, à ceux qui, comme Jean-Pierre Richard, s'étonnent de l'extraordinaire pulsion de sens qui emporte ces textes. J'essaye tout. Parole de Convolvulacé. Après une sortie aussi jubilatoire de la toute-puissante norme individuelle, comment la reproduction sexuée, comment la fleur, que l'auteur de l'opinion renvoie justement à un stade d'inimitable individuation, pourrait-elle bien encore le séduire ? Est-ce parce qu'elle n'en finit pas de se dégrafer, verbe et chair, comme le montre l'impudeur de l'œillet? Dans le texte sur la tulipe, c'est aussi bien parce qu'elle fane. Foin donc de la fleur déclose et de la plénitude statique débouquée, La pourriture végétale ouvre elle aussi sur un monde de formes tourmentées, en travail d'elle-même, signe d'une fructification rhétorique continue, inépuisablement en cours, signe encore que le mouvement d'émancipation des métaphores de routine a en quelque sorte atteint sa vitesse de croisière. C'est tout le sens de ce passage. Nous aussi en avons fini de la beauté, de la forme parfaite, celle d'une coupe pour les tulipes à leur éclosion classique. Il nous faut laisser s'avancer le pistil pour Dieu sait quel fruit. D'où la déformation et l'impropriété manifeste de nos mots, de nos phrases. D'où la forme incongrue, baroque, ouverte enfin, de nos textes. Mais ce n'est pas tout. La libération de la fleur ne peut être accomplie qu'à condition de rompre toutes les amarres. Il fallait à Ponche, pour se dépêtrer définitivement du magma analogique, s'attaquer à un absolu, à une métaphore inaugurale, matricielle et totalisante, et la neutraliser. C'est ainsi, je crois, que s'explique la présence à peine dissimulée dans l'opinion de Hegel, dont le texte propose une quasi-réfutation. De manière furtive, en effet, mais sans appel, cet opus résolument accentré vient voiler, comme le zéro sorti de sa jante, toujours dans l'opinion, le grand cycle germinal et dialectique tel qu'il se dessine dans la préface de la phénoménologie de l'esprit, selon les trois moments bien connus de l'unité organique, bouton, fleur, fruit, qui préfigure l'achèvement du concept dans la concrétude de l'esprit absolu. Une équivalence fondatrice et récurrente chez Hegel, comme en témoigne, à l'autre extrémité de son œuvre, ce passage de l'Encyclopédie des sciences philosophiques. Le concept pose lui-même une limite à son auto-développement par ceci qu'il donne une effectivité qui lui correspond pleinement. Bon. Déjà dans le vivant, nous voyons cette auto-limitation du concept. Le germe de la plante, ce concept présent sensiblement, clôt son déploiement avec une effectivité égale à lui, avec la production de la graine. La même chose vaut de l'esprit. Son développement, lui aussi, a atteint son but lorsque le concept de l'esprit s'est complètement réalisé, ou, ce qui est la même chose, lorsque l'esprit est parvenu à la conscience complète de son concept. Alors, arrêtons-nous un instant seulement sur la formation du concept, significativement lié pour Hegel à cette force parfaite de l'unité individuelle, je cite, qu'il savait pourtant étrangère, comme tout le monde à son époque, à la plante. Ne peut prétendre en effet au statut de concept que ce qui se constitue solidairement, bien au-delà d'une simple juxtaposition des parties, dans une unité idéale, intégrative, où ces parties s'organisent en membres interdépendants. Dans cette perspective, seul le concept d'esprit réalise pleinement l'intégration, sous la forme d'un nouvel organon d'ampleur encyclopédique, laissant loin derrière lui le premier moment, végétal, d'un lent processus de subjectivation où l'individu se trouve à jamais hors de soi et dissocié dans une vaine prolifération. Or, nous arrivons justement ici au cœur du paradoxe d'une métaphore qui, tout en postulant une profonde affinité du thème, le concept, avec la vie végétale, maintient par ailleurs le fort, la plante, à l'écart d'un processus de devenir. Condamnée comme la nature tout entière d'ailleurs à rester à distance de son concept comme une contradiction non résolue, la fleur n'a aucune chance de se voir subsumée dans quelque universalité subjective intérieure que ce soit, rejetée qu'elle est au contraire dans un dehors sans contour, non totalisable, ce que Hegel appelle encore une éclosion bourgeonnante démesurée, bref, dans une espèce de mauvais infini. Tout le monde le sait, la nature n'a pas d'histoire. Pour nous libérer, libérons la fleur. Changeons d'opinion quant à elle. Hors de cet involucre, le concept qu'elle devint, par quelque révolution dévolutive, rendons-la, sauve de toute définition, à ce qu'elle est. Mais quoi donc ? Bien évidemment, un conceptacle. Au vertige du bas matérialisme, faudra-t-il désormais ajouter pour un portrait bataillien de Ponge celui d'un sceau hors du système hegélien. D'un auteur à l'autre, toutefois, les moyens sont très différents. Pas de transgression ici. Ponge est plus désinvolte. Ce qu'il appelle réinitiation passe d'abord par la remotivation somatique, séminale même, puisque conceptacle désigne un organe reproducteur, d'un des mots-clés de ce système. Voilà donc la fleur rendue à l'élan primitif et à peu de frais. Mais en risquant cette acrobatique calembour, c'est rien moins que la métaphore végétale qui charpente et qui boucle l'ensemble du dispositif d'autoproduction de l'esprit que Ponge est en train de rejouer. À cet égard, il est de toute première importance que la déconceptualisation de la fleur se double dans ce massif, quelle opinion, du vœu de vie végétative, quitter ma tête, dont il faut souligner ici qu'il radicalise l'insubordination résolue aux idées, bien connues des lecteurs de méthode, mais plus encore, qu'il donne sa pleine mesure au sentiment d'une contingence essentielle de la vie de l'esprit. Je cite Nyok. Ces idées illuminent la conscience, mais j'ai toujours le sentiment du hasard de leur étincelle, qui leur ôte à mes yeux presque tout prix. Je sais bien que mon opinion peut être infirmée demain ou dans l'instant suivant par quelque idée contradictoire qui me sera fournie de la même façon. Contingence qu'on retrouve aussi dans l'élaboration des œuvres, puisque l'auteur considère tout état textuel comme un moment, comme un autre, s'ajoutant à la série des états précédents. Quelle édification systématique possible dans d'aussi instables conditions ? La pensée et l'écriture de Ponge sont à la fois amoncelantes, comme les tables de Jean Dubuffet, et laminaires. Elles ne thésaurisent pas tant le sens, comme le ferait n'importe quelle entreprise spéculative, qu'elles ne le redistribuent. Le contraire d'une somme, en quelque sorte. Le sens est incessamment remis en jeu. Et comme à la réitération dans d'autres textes, il revient dans l'opinion à ce que Ponge appelle un style de parenthèse, de matérialiser ce report continuel d'un rendement discursif ou logique. Bien entendu, ce style n'est pas choisi pour sa seule efficacité figurative, les parenthèses comme les pétales de fleurs, il est ouvertement stratégique. C'est une petite machine de guerre, logologique, dirait Dubuffet, censé venir à bout de la très compacte triade thèse-antithèse-synthèse dans laquelle sont condensés, métaphoriquement, l'essentiel de la processualité végétale et toute la puissance de l'auto-effectuation de l'esprit. Et il va sans dire que ces parenthèses étant, je cite, « ouvertes sans pouvoir être jamais refermées », le saut périlleux initial, de concept à conceptacle, ne saurait se conclure par un rétablissement. Il est plutôt voué à se prolonger en une série indéfinie de rebonds, balayant du même coup la clôture téléologique imprimée par Hegel à tout essor évolutif. Rien de plus étranger à Ponge que l'implacable finalisme de cette phrase, prise entre cent autres dans le corpus du philosophe. Le devenir de la nature est un devenir en direction de l'esprit. La cosmogonie ponzienne, nourrie des leçons de Darwin, est plurielle, explosive, portée à la dispersion plutôt qu'à l'unité. Elle va démultipliant son asymétrie, son anarchie, conformément à ce qu'annonçait déjà dans Proème la forme du monde, et selon une perspective opiniâtrement anthropo-décentrée. Ainsi dans le murmure, où l'homme est un animal comme un autre, et dans l'opinion, où Ponge remet en question la supériorité de l'intelligence animale sur la végétale, d'une tête donc sur une autre. Voilà, il suffisait donc d'introduire un peu de jeu dans le rouage dialectique pour retrouver une véritable autonomie processuelle, sans but, ni forme, ni borne, pardon. Résultat, on passe d'une figure à une autre, mais comme on retourne un gant, concept, conceptacle. La métaphore organiciste le cède alors à une organicité du geste d'écrire. « Toujours la plume au bout des doigts », écrit Ponge dans Pochade en prose, « et que chaque pensée, chaque mouvement de l'arrière-gorge, du cervelet, se voit transcrit par les mots convenables sur le papier, au moyen de la plume. » Formulation au fur et à mesure. Le méristème, toujours, et sa poussée régulière. Dans ces décennies de guerre et d'après-guerre, Alors qu'en France, la pensée de Hegel est toujours profondément agissante, sortir du manège revenait aussi à cela. L'écriture réitérative, végétative, si l'on veut, où l'on pourra aussi reconnaître une des premières manifestations de l'anti-hegélianisme généralisé, diagnostiqué plus tard par Deleuze, dans Différence et répétition. Cette écriture plus sensitive que rationnelle permettait de s'affranchir de la temporalité dialectique. C'est un mot de Françoise Colin. En faisant faux bond à l'idée d'accomplissement, en renonçant, comme la plante renonce à sa fleur, à la perfection individuelle absolue, elle se transportait au cœur même du protoplasme. Ça, c'est un mot de Ponge. Plasma, plasine, plastiqué. Dans le temps propre de la vie organique, la durée sans butée d'un pur engendrement. Voici ce que nous aimons surtout dans les fleurs. Paradoxalement, leur durée. Le sentiment qu'elles donnent d'un pouvoir dans le temps, disséminé dans l'espace. Leur côté bombe de graines. Le mouvement vers l'avenir que cela comporte et suscite en l'esprit. La durée, le mouvement. Deux mots qui sonnent tout à coup quelque peu bergsoniens. Le Bergson mobiliste, bien sûr, pandynamique, pour qui toute organisation de la matière, je cite, a quelque chose d'explosif. Étrange tangente, donc, que celle que je vous ai invité à suivre au début de cet exposé, car à peine nous sommes-nous dégagés de Hegel que nous reprenons place sur la ligne de départ, renflouée dans le mouvement se faisant que l'auteur de l'évolution créatrice déduisait d'une pulsation des images et des choses. Mais est-ce vraiment un hasard? L'univers dure. Lorsque Bergson écrit cette phrase, il ne fait pas que réaffirmer la nécessité de repenser le temps hors des catégories de l'espace, mis en avant dès l'essai sur les données immédiates, que Ponge avait lu. Il donne une forme métaphorique à cette création continue qu'est la durée, la forme d'un arbre, dont la multidirectionnalité figure le foisonnement du monde, comme chez Darwin, et dont chaque terminaison consigne incessamment le passage du temps. Partout où quelque chose vit, écrit-il, il y a ouvert quelque part un registre où le temps s'inscrit. Nous n'aurions donc jamais perdu de vue le serpentement d'origine. Il aurait cheminé jusqu'ici, fait quelques détours, certes, jusqu'à trouver non pas une conclusion, mais un débouché. Non pas retour à Bergson, mais retour de Bergson, d'un Bergson refoulé, pourrait-on dire, si l'on se souvient des préventions de Ponge à l'égard d'une œuvre qui, avec celle de Husserl, avait pourtant été l'objet d'une lecture enthousiaste. Les retrouvailles avec Bergson, par l'entremise de Poland à la fin des années 20, sont loin d'être paisibles. Mais que Ponge l'assimile à un théoricien du nazisme, sur fond de refus probablement d'un vitalisme radical, on ne reste pas moins frappé de la constance chez lui d'une sympathie intellectuelle avec les thèses phénoménologiques à leur manière de l'intuition ou connaissance du dedans, véritable alternative à ce que Bergson appelle le géométrisme de l'intelligence. Ainsi cette déclaration de principe dans Gnoc, que n'aurait pas démenti Bergson et encore moins Léonard. L'artiste résume la science, l'abolit, fait ressurgir la vie. Refaire artistiquement la nature, lit-on encore dans l'inachèvement perpétuel, exige que la nature se réintroduise impérieusement en nous. Retour aux choses donc, mais par une nouvelle invasion de l'homme par les choses. Et plus loin, le sentiment d'un tel pouvoir doit suffire au bonheur de l'homme, enfin au minimum d'élan vital que celui qui lui est nécessaire pour continuer à vivre. La métaphore bergsonienne de l'arbre ferait donc retour, mais en quoi? Premièrement, en ce que le règne végétal, par l'embryogenèse ouverte qui le caractérise, ne fait qu'un avec cet enregistrement continuel de la durée, c'est Bergson, propre à la vie. Il en offre d'ailleurs une bien meilleure image que l'animal, dont la croissance se réduit au changement de proportion, d'une forme donnée une fois pour toutes au terme d'une embryogenèse fermée. De ce point de vue, il n'est pas surprenant que le journal poétique commence à se déployer, après un ballon d'essai en pays vivarais, on l'a vu récemment, au milieu d'un bois de pins. La persistance du passé dans le présent, c'est toujours Bergson, émerge alors à même la page, dans les battements d'une durée créatrice rendue palpable par la datation et la publication des différents progrès de l'œuvre. Bernard Beugnot, de qui je reprends cette formule très bergsonienne, ne s'y trompe donc pas. Or, ce temps déployé du texte ouvre à son tour sur la durée propre de la chose. Ici se fabrique lentement le bois, lit-on dans le carnet, chaque variante étant une sorte de cerne, témoin à la fois de la croissance de la chose et du texte. Prendre le parti de la chose, comme autant déjà de la bougie, cette plante singulière, signifie donc bien davantage que restituer une forme, dont Ponge aussi bien que Bergson savait qu'elle n'est qu'un instantané pris sur une transition, cela implique de retrouver ce que Bergson appelle la continuité de jaillissement, où cette chose ne cesse de se ressourcer. Cela implique littéralement de prendre son temps. Mais il y a davantage. La métaphore fait retour en ce qu'elle déborde sa propre métaphoricité. Bergson d'ailleurs nous en prévient. Ce n'est qu'une métaphore. L'essentiel est ailleurs. L'élan vital ne saurait être contenu dans une figure, fût-elle d'inspiration organique. Il doit se déverser, se disséminer à travers la pensée et l'écriture elle-même et en modeler à mesure la forme. Chez Bergson, comme plus tard chez Ponge, l'organicité investit le style dans son ensemble, son mouvement général et jusqu'à son rythme. Elle pointe à travers la matérialité de la langue et force plus ou moins violemment sa résistance. Bruno Clément a récemment fait valoir combien ce style, par son refus de la logique rectiligne et de l'univocité, par son recours permanent à la courbe de la pensée et à la tangente, ce sont des mots de Bergson, par son allure viscéralement asymptotique, était étrangère à l'architecture classique du discours de la philosophie. Pour preuve, cette phrase de la pensée et le mouvant. De ses départs et de ses retours sont faits les zigzags, on parlait hier de slalom, d'une doctrine qui se développe, c'est-à-dire qui se perd, se retrouve et se corrige indéfiniment elle-même. Une doctrine se développe, certes, mais comment ? Nullement de manière encyclopédique ou dialectique. De l'aveu du philosophe lui-même, une philosophie ressemble plutôt à un organisme qu'à un assemblage. À quelques décennies de là, alors qu'il contresigne la décision de Picasso de dater soigneusement la moindre de ses esquisses, Ponge écrit de l'artiste qu'il est un organisme comme un autre. Un organisme qui pourrait, peut-être, énoncer ceci. Il ne pouvait formuler ce qu'il avait dans l'esprit sans se sentir obligé de corriger sa formule, puis de corriger sa correction. Ainsi, de théorie en théorie, se rectifiant alors qu'il croyait se compléter, il n'a fait autre chose, par une complication qui appelait la complication, et par des développements juxtaposés à des développements, que reprendre avec une approximation croissante la simplicité de son intuition originelle. Qui parle ici ? Un prix Nobel de littérature ou l'auteur d'un texte intitulé « La figue sèche ». Soit donc, encore, et pour finir, le germe d'un texte futur. « La figue est molle et rare », 1951. Autrement dit, une bombe de graines, une petite bombe. Le mot « bombe » revient de loin. Il a été lancé dès Faune-et-Flore, dès la fin des années 30, lorsque Ponge travaillait à fourbir les pièces du parti pris comme des bombes. Mais il n'a plus ici la connotation anarchisante des commencements. L'effet de souffle qui traverse la version étendue de 1977, la version cosmique, s'il est vrai que l'expansion végétale est la forme sensible à notre échelle de l'espace-temps, cet effet de souffle n'agit pas seulement comme à retardement, et avec d'autant plus d'éclat que sa puissance d'être a été longtemps comprimée, il montre également que la déflagration n'est plus dirigée vers un extérieur, mais vers le cœur même de l'écrit, qu'il contribue à informer, c'est-à-dire à faire, à défaire, et à remodeler selon les lois de la plastique, machinalement entre le pouce et l'index, pour jouir plastiquement de sa forme. Il n'est pas indifférent que l'esthétique de l'inachèvement soit condensée ici, dans cette seule occurrence de l'adverbe, un apax donc, nécessairement très en relief dans un texte où chaque mot est mâchonné sans fin, Car ce qu'on appelle la plasticité, cette capacité à recevoir ou à donner la forme héritée du grec, est inséparable dans notre modernité d'une puissance d'anéantissement de la forme que le terme plastique, avec un C cette fois, est venu matérialiser. La plasticité, dit encore Catherine Malabou, se présente donc comme une agonistique entre la forme et sa dislocation. Différents interminables, cela va sans dire. Procès en volubilité. La forme ne peut être qu'un devenir forme. Voilà, arrivé au stade d'extension maximale de ce que je voudrais appeler une forme-temps, forme qui intègre la durée même de sa propre élaboration dans son matériau, de telle sorte qu'elle ne puisse plus en être dissociée, au moment donc où le poème se délie, comme on le dit d'une langue, et où la trame textuelle se distend jusqu'à donner à voir ses temps d'arrêt, ses zones de silence, le non-écrit, je ne peux m'empêcher d'évoquer Simon Antaille dans son atelier, faisant sauter les nœuds et les pliures des taboulas, la série la plus pongienne du peintre, sans doute, et révélant simultanément l'endroit et l'envers de ses toiles, en un geste à double détente en quelque sorte, qui non seulement permet au temps de gestation de l'œuvre de continuer à palpiter, mais aussi au blanc, au négatif du geste, au non-peint, qui depuis Cézanne est une autre façon de faire vibrer les formes et se tordre les lignes, de s'imposer comme partie prenante de la peinture. Je vous remercie.